Bonsoir. Un calme relatif s'observe depuis hier dimanche dans le territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. C'est notamment dans la zone de Djomba où se sont déroulés des violents combats ces deux derniers jours entre les FRDC et les rebelles du M23. Le M23 s'est retiré de quelques positions où il se trouvait lors des combats avec l'armée loyaliste. Dans un communiqué publié hier dimanche, 10 avril, la direction du M23 affirme se retirer de ses positions offensives d'avant le 6 avril dernier pour permettre au gouvernement congolais de prendre en compte leurs revendications, notamment l'organisation d'un dialogue franc et fructueux. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Nous en parlons ce soir avec Julien Paluku, ministre de l'Industrie et ancien gouverneur du Nord Kivu. Monsieur le ministre, bonsoir.
Oui, bonsoir Madame Kelly, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi, particulièrement ceux de Djomba, Bunagana, Rutshuru, partout, Tchengero, Tchanzu, Runyonyi. Merci.
Emmanuel Ngahouye, député provincial du Nord Kivu, élu de Rutshuru. Emmanuel Ngahouye, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly, bonsoir Excellence Julien Paluku, bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Okapi, particulièrement ceux du territoire de Rutshuru. Plus précisément à Djomba où la population est en débandade, dans les Bouéza et environ.
Père Rigobert Minani, chef des secteurs de recherche et animation sociopolitique du Centre d'études pour l'action sociale. Père Rigobert Minani, bonsoir.
Bonsoir madame.
Vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions, vous auditeurs des Radio Capi. C'est le cas de Héritier Massaka Clébert depuis Kikwit, qui pense que les FRDC doivent continuer de traquer ces rebelles du M23. Un État sérieux ne peut pas négocier avec les rebelles. Antoine Elombo depuis Kisangani salue la sagesse de ces rebelles d'opter pour le dialogue comme moyen de résolution pacifique de conflits. Il demande au gouvernement de profiter de cette opportunité afin de trouver une solution à ce problème qui n'a que trop duré. À retour au Nord Kivu, vous nous suivez sur la 95.3. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Dans le territoire de Rutshuru, je l'ai dit, un calme apparent s'observe dans la région de Djomba deux jours après le retrait unilatéral des rebelles du M23 des positions occupées vendredi à l'issue des combats contre les FRDC. Bien qu'ils aient reculé, les M23 sont toujours en position de force dans la mesure où ils conservent les collines stratégiques de Tchanzu et Runyonyi. Cette situation ne rassure pas du tout la population de la région. Nous en parlons avec Sifa Maguru depuis Goma.
Sifa Maguru, bonsoir.
Bonsoir Dona Madimba.
Que peut-on retenir à ce stade de la situation sur le terrain en ce moment?
Oui, d'après les sources de la société civile dans la zone, le M23 est actuellement positionné à partir de Bougoussa jusque dans les collines de Tchanzu et Runyonyi, alors que les FARDC se trouvent à Tchengerero et Bunagana. Nos sources confirment qu'une psychose s'observe toujours dans la zone malgré ce retrait. La population qui s'est réfugiée vers Rutshuru centre et d'autres en Ouganda ne veulent pas rentrer car elles ne sont pas rassurées par ce retrait du M23 qui n'est pas le premier, disent nos sources. Seuls quelques habitants courageux tentent d'arriver au village pour prendre les nécessaires, notamment les récoltes, et retournent encore dans leur milieu de déplacement. Cependant, il faut rappeler que le contrôle des collines de Tchanzu et Runyonyi reste stratégique dans la mesure où il facilite non seulement le contrôle des frontières entre le Rwanda, l'Ouganda et la RDC dans sa partie Rutshuru, mais aussi il donne accès au territoire des Masisi à partir de l'axe Kalengera Tongo, ce qui explique le maintien à tout prix de cette région par le M23 et même le CNDP auparavant.
Est-ce que les informations selon lesquelles le M23 ne viserait pas à conquérir les territoires en République démocratique du Congo et les gérer sont crédibles ou pas?
Oui, c'est ce que dit leur communiqué du 10 avril 2022 dans lequel le M23 annonce sa décision de se retirer une fois de plus sur les positions défensives d'avril, d'avant le 6 avril, pour permettre, selon le communiqué, la prise en charge de ses préoccupations à travers un dialogue franc et fructueux avec le gouvernement. Dans le même communiqué, le M23 exprime son intention de remettre au Comité international de la Croix-Rouge tous les éléments de l'armée nationale capturés sur la ligne de front. Le M23 a souligné n'avoir jamais eu, selon ses propres termes, l'intention de faire des conquêtes des espaces pour les administrer. La seule motivation, c'est le règlement pacifique de la crise d'après lui.
Sifa Maguru, l'appellation M23 n'est pas nouvelle en République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut dire que le M23 d'aujourd'hui a des liens avec le M23 d'il y a 10 ans? Y a-t-il un lien ou pas?
Oui, Dona Madimba, pour la petite histoire, lorsque le M23 est revenu s'installer dans les parcs de Virunga en janvier 2017, c'était d'abord un petit groupe avec plus d'officiers que de combattants, sous le commandement des Makenga. Certaines sources parlent de moins de 100 personnes, tous venues de l'Ouganda. Un groupe différent du M24R-Uganda qui avait fui vers le Rwanda. On se rappellera que l'armée gouvernementale avait mené par moments des attaques sur leur position, mais ces derniers ont résisté et ont continué à conserver ces positions. Ensuite, Makenga s'est mise à recruter dans les Rutshuru et dans les Masisi et plusieurs jeunes ont rejoint ce mouvement dans les parcs de Virunga selon nos sources. Le mouvement s'est donc renforcé en armement et en munitions sur le territoire congolais. Mais par rapport aux revendications, on peut dire que ce mouvement n'a pas changé de position. Il revendique toujours l'application de l'accord cadre de Nairobi, le retour au pays des ex-rebelles du M23 et leur intégration dans les institutions. Notez qu'à l'époque, le gouvernement congolais avait écarté certains leaders du M23 qui n'étaient pas éligibles et qui étaient impliqués dans les violations des droits de l'homme et qui devraient répondre devant la justice. C'est par exemple Makenga lui-même, ainsi que plusieurs officiers qui se trouvent au Rwanda. Voilà la situation d'Ona Madimba.
Merci beaucoup Sifa Maguru et bonne soirée chez vous.
Merci à vous autant.
Merci Dona Madimba et Sifa Maguru pour tous ces détails sur cette résurgence du mouvement M23. Julien Paluku, vous êtes ministre de l'Industrie, ancien gouverneur du Nord Kivu. Actuellement, vous vous trouvez d'ailleurs au Nord Kivu où vous y êtes en délégation avec à la tête le premier ministre Sama Lukonde. C'est par rapport à la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu.
Oui, nous sommes effectivement au Nord Kivu avec son excellence monsieur le Premier ministre pour une évaluation de la situation sécuritaire, la situation humanitaire, mais également l'évaluation de l'état de siège au Nord Kivu et à Ituri.
Parlons du M23, un calme relatif s'observe depuis hier dimanche dans les territoires de Rutshuru, notamment dans la zone de Djomba où se sont déroulés des violents combats entre les FRDC et les M23. Vous connaissez très bien ce mouvement rebelle, vous avez été gouverneur du Nord Kivu pendant très longtemps. Ces rebelles du M23 ont fait plusieurs incursions dans cette province que vous avez gérée. Qu'est-ce qui justifierait selon vous cette résurgence de ce mouvement rebelle aujourd'hui, alors qu'on sait que ce groupe était censé être désarmé selon l'accord signé entre le gouvernement et ce mouvement à Nairobi?
Oui, merci madame. Moi je pense qu'il faut replacer la population dans le contexte réel. Le 6 novembre 2013, moi-même avec beaucoup des autorités militaires, nous arrivons à Tchanzu pour signer la capitulation du M23. Il avait traversé les frontières congolaises jusqu'aux frontières voisine. Et depuis lors, je dois affirmer que le M23 n'est plus revenu parce qu'il était déchiré totalement par les forces armées de la République, appuyées à l'époque par les éléments de la casque bleue, notamment la brigade tanzanienne, qui avait son artillerie, qui avait démantelé les trois antennes, comme on le disait. Maintenant, aujourd'hui qu'ils reviennent, moi je veux parler de deux éléments du contexte. Le premier élément du contexte actuel, c'est que nous étions en phase, nous, gouvernement congolais, avec le gouvernement ougandais, pour commencer les travaux de route Bunagana, Rutshuru, Goma, les travaux de route Kasindi, Beni et Butembo, pour essayer un peu d'élargir nos activités économiques entre nous et l'Ouganda. Et c'est à ce moment-là que l'entreprise qui était commise à pouvoir réaliser les travaux était déployée du côté de Bounagana, que le M23 commence la guerre. Bon, ta première interrogation. Deuxième interrogation, c'est pendant que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, est à Nairobi pour signer l'adhésion de la RDC à la communauté de l'Afrique de l'Est, que effectivement on voit la puissance des feux augmenter pour devoir déloger les éléments des forces armées sur les collines que vous avez citées, notamment Tchanzu et Runyoni. Donc pour moi, deux éléments-là doivent aider les analystes à comprendre effectivement que ce qui soit la guerre à la RDC qui s'appelle M23 sont à même d'être désignés comme des ennemis de la République. Parce que si on doit faire la route entre Bounagana, Rutshuru et Goma pour identifier les activités économiques comme indicateur de développement, si on doit adhérer à la CEAC, si on doit désengorger Jomba, qui est le grand bastion des gorilles de montagne, pour susciter le tourisme, et que des gens viennent y commencer la guerre, ça montre effectivement que des gens qui se sont toujours prévalus être les amis du Congo, revendiquer le développement du Congo, à mon avis, ça doit être des ennemis de la République et traités comme tels. Donc je crois que l'adhésion de notre pays à la communauté de l'Afrique de l'Est devra permettre à la RDC, à travers son président, d'être en face de tous les présidents membres de cette communauté pour qu'on se parle réellement en face et qu'on puisse trouver une solution définitive à cette crise. Tous les États de la région ne peuvent pas accepter ce genre de blagues. On peut accepter qu'au Rwanda, des gens viennent, eh bien, ils prennent une localité et puis ils disent, bon, monsieur le président rwandais, nous vous demandons de faire une négociation avec nous pour que nous vous laissions le temps de faire X, Y. On ne peut pas le faire non plus pour l'Ouganda. Donc, je crois que ça doit être la même logique pour la République démocratique du Congo, pour que l'adhésion au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est soit un signal fort de ne plus tolérer ce genre de bêtises, ce genre de blagues qui endeuillent continuellement notre population. Aujourd'hui à Rutshuru, à Jomba, à Bounagana, à Bougoussa, à Tchengeseo, les gens fuient à cause des gens qui se réclament être des Congolais et défendre la force des Congolais. Donc voilà plus ou moins l'interrogation que j'ai voulu mettre sur la table de discussion, les éléments du contexte, sans être le porte-parole du gouvernement, mais en tant que notable de la province du Nord-Kivu.
Selon certaines indiscrétions, cette question aurait été évoquée lors de la signature de l'adhésion de la RDC à l'EAC le week-end passé. Est-ce que vous nous confirmez cela en tant que membre du gouvernement? Est-ce que vous avez quelques informations sur ça?
Non, moi je pense que l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté d'Afrique de l'Est n'avait pas pour objectif d'aller trouver des solutions ou de parler du problème du M23. Ça peut avoir été évoqué dans les couloirs, mais ça ne peut pas faire l'objet, sincèrement, d'un point à l'ordre du jour. Donc je ne sais pas ici vous le confirmer, étant donné comme que moi-même je n'étais pas membre de la délégation, mais je crois, et cela nous a été dit par le président de la République, que il s'est déplacé pour Nairobi en vue de signer l'adhésion de notre pays au sein de la communauté économique de l'Afrique de l'Est. Donc la question du M23, comme je vous l'ai dit, a été subsidiaire parce que les attaques ont eu lieu en Asie pour chercher à forcer la main du président de la République se trouvant à Nairobi à accéder à un certain nombre de revendications. Et ce sont des méthodes de tout le temps. Ceux qui ne les connaissent pas peuvent croire qu'ils sont de bonne foi. Mais nous qui les connaissons très bien, et ça je lance une alerte à l'ensemble du peuple congolais, que ces méthodes qu'ils ont toujours utilisées pour dire, bon voilà, nous vous laissons un espace, on signe et communiqué, alors que naturellement, s'il s'agit réellement de M23, ils n'ont pas la capacité de conquérir un espace, de l'occuper, de le contrôler.
Le M23 n'a pas la capacité d'occuper certaines positions et de contrôler certaines localités de la RDC si il n'a pas un appui extérieur. Plusieurs observateurs parlent de l'appui du Rwanda. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui,
on a même suivi le communiqué du porte-parole de l'armée au Nord-Kivu, lorsqu'on avait capturé de présumés rebelles M23, les avait présentés comme étant des militaires rwandais.
Bon, moi, je pense comme il y a un mécanisme régional de vérification qui est installé dans la région ici, et avec l'adhésion de cette communauté de l'Est, moi, je crois que les chefs d'État devront se parler sincèrement et franchement. même si en politique, il n'y a pas d'amis, ce sont les intérêts qui comptent. Mais moi, je crois qu'on devra se parler sincèrement, parce que lorsque nous avons été à Tchanzu en 2013, après Tchanzu, c'est la forêt. Mais comment quelqu'un peut, de la forêt, avoir une puissance de feu qui vienne déloger les éléments des forces armées? Donc, il faudrait que les enquêteurs puissent savoir si la forêt est devenue aussi un lieu où on fabrique des armes, pour qu'on sente que les armes sont provenues seulement de la forêt et non de quelque part d'autre. Et quelque part d'autre, c'est où? Je ne sais pas citer l'endroit parce que je ne suis pas l'enquêteur. Donc, il faudrait que les enquêteurs puissent se pencher sur la question pour qu'on retrace la chaîne d'approvisionnement. C'est rebelle et à partir de la chaîne d'approvisionnement, on peut maintenant trouver des solutions définitives à la crise.
Il y a eu des accords signés entre le gouvernement et le M23. Pourquoi le gouvernement ne respecte pas ce qu'il a promis à ce mouvement?
Il y a une loi qui a été votée au niveau de la République démocratique du Congo. Cette loi interdit de prendre les éléments des groupes armés et de les inscrire dans les forces armées. Je crois que cela est valable et pour les JDF 23 et pour tous les groupes armés. Nous ne devons pas répéter les mêmes choses qui nous ont amené à la crise récurrente que nous connaissons. La République devra s'assumer à partir des expériences malheureuses que nous avons connues pour ne plus répéter les mêmes choses. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, il appartiendra à la République de décider. Elle doit déroger à la loi pour intégrer des groupes armés dans son armée, ou alors rester ferme. Et le point de vue notable de la province du Nord Kivu que j'ai et que je proposerai, c'est de ne plus accepter un seul instant que des gens qui prennent les armes intègrent automatiquement l'armée. Ça sera donner de la valeur aux groupes armés, ça sera pérenniser la crise à l'Est, parce que tout le monde prendra l'arme, sachant qu'in fine, ça sera une voie d'intégrer les éléments des forces armées. Donc c'est un point de vue personnel qui n'engage pas le gouvernement, mais qui est un conseil que je formule à l'intention d'exécuter de m'écouter et de me suivre à travers la voie de la radio Okapi, qui est suivie à travers le monde, et particulièrement la RDC.
Emmanuel Ngarouye, vous êtes député provincial du Nord Kivu et élu de Rutshuru. Comment vous vous expliquez cette résurgence du M23?
Merci beaucoup, madame. Je commence par compatir avec mes électeurs du territoire de Rutshuru, plus particulièrement ceux de Jomba et Bweza. Parmi eux, plusieurs personnes ont été tuées par l'M23 et d'autres aujourd'hui sont en errance en Ouganda et dans d'autres localités plus ou moins sécurisées. Mais en fait, je commence par dire ma colère par rapport à la gestion de la République démocratique du Congo. Parce que il se fait que la République du Congo est déjà perçue comme le ventre mou de la région des Grands Lacs et tous les voisins sont en mesure d'imposer tout ce qu'ils veulent chez nous. Vous le savez peut-être, ici à l'est de la République, plus particulièrement à Rutshuru, les populations sont victimes de guerres, d'agression depuis 1996. Nous avons donc connu la guerre de 1996 qui a massacré les populations de Rutshuru particulièrement. Nous avons connu la guerre du RCD. Nous avons connu le M23-1, parce que le M23 aujourd'hui, depuis 2013, il était déjà défait. Mais depuis novembre 2021, nous venons de connaître cette attaque.
Comment vous expliquez cet activisme du M23?
L'activisme du M23 vient du fait que les gens de la RDC n'assument pas leurs responsabilités en pointant clairement l'ennemi. Vous avez suivi, comme moi, les agents de terrain, donc les militaires qui sont sur le front, ils ont affirmé haut et fort être attaqués, être aux prises avec l'armée rwandaise, mais le gouvernement congolais, à travers son porte-parole, n'a pas tardé à les contredire. Cette confusion est à la base de l'activisme des groupes armés appuyés par les pays voisins. Et cette confusion-là qui fait que lorsqu'on ne connaît pas, on ne sait pas pointer son sorcier, les sorciers continuent à être forts. Je suis en train de penser que si la RDC peut avoir le courage de pointer son sorcier, de pointer son agresseur, il pourrait donc développer une politique militaire, une politique diplomatique adaptée par rapport à l'ennemi, à l'adversaire attendu. Mais lorsque la RDC continuent à camoufler en disant que ce sont des groupes armés, alors que c'est l'attaque d'un pays voisin. Cela fait en sorte que l'énergie nécessaire qu'il fallait mettre ne soit pas consentie.
Vous avez suivi le ministre Julien Paluku sur cette question, dire qu'il faut attendre peut-être les résultats de l'enquête du mécanisme régional des vérifications pour confirmer ou infirmer si c'est réellement le Rwanda qui est derrière le M23. Vous pensez que c'est une faiblesse du côté du gouvernement congolais alors que ceux qui sont sur terrain pointent du doigt le Rwanda?
Merci madame. Vous êtes de ce pays, la République du Congo. Vous avez bien entendu suivi plusieurs commissions d'enquête. Mais je crois que nous avons toujours eu des commissions d'enquête, mais les résultats ne sont jamais venus. Et même le rapport Mapping, qui était une très grande enquête, aujourd'hui, on n'a pas encore les résultats. On a tué l'ambassadeur de l'Italie. Les enquêtes sont toujours en cours. Et donc, je suis renforcé dans ma position par deux éléments. Le premier élément, c'est que l'armée congolaise qui est sur le terrain connaît avec qui elle se bat. Le deuxième élément, je suis un enfant de Rutshuru et je suis un enfant du groupement de Jomba. Fort de l'expérience, au regard de toutes les guerres que nous avons connues, je peux affirmer, sans peur d'être contredit, que toutes les rébellions que nous avons connues, je parle de l'AFDEL, je parle du RCD, du CNDP et du M23, elles ont toujours été créées et soutenues par le Rwanda. Les criminels, ceux qui ont commis de graves crimes au Congo, sont gardés au Rwanda. Alors que le Congo fait des efforts pour rechercher toutes les personnes que le Rwanda lui demande de rechercher, mais le Rwanda n'a fourni aucun effort pour nous fournir un seul criminel alors qu'ils sont gardés chez lui. Et le Congo, malheureusement, le Congo appelle le Rwanda son pays voisin. Et cela choque certainement les Congolais et donc le peuple congolais, plus particulièrement mon peuple du Nord Kivu, de Rutshuru en particulier, a tant souffert et ne voit jamais les efforts des gouvernants congolais à pouvoir reconnaître cette souffrance et à agir conséquemment pour lui préserver de toutes les conséquences qui lui arrivent au moins chaque année.
Père Rigobert Minani, chef des secteurs de recherche et animation sociopolitique du Centre d'études pour l'action sociale, c'est pas son sigle. Votre centre a initié à Kinshasa une série de débats autour de la compréhension des conflits en RDC, notamment avec la résurgence du M23. Père Minani, comment vous expliquez cette résurgence de ce mouvement rebelle?
Merci madame. Effectivement, donc nous avons publié au CEPAS un livre intitulé « Les défis de la construction de la paix en RDC » où nous avons passé en revue un peu les 10 ans de conflits à l'est du Congo et les différentes initiatives de paix et les raisons de leur réussite ou bien leur échec. Pour ce qui est de M23, nous avons décidé donc de commencer à faire un débat sur ces questions-là parce que d'une part, une des choses qui est quand même assez scandaleuse, c'est le fait que il y a des guerres qui commencent dans la partie orientale du pays. Il y a plus de 20 000, 30 000, 40 000 réfugiés qui sont sur la route. Mais l'opinion congolaise, principalement celle qui se trouve ici à Kinshasa, mais aussi dans beaucoup d'autres pays, d'autres coins du pays, ne semble pas le considérer comme si c'était quelque chose qui s'est passé dans la RDC. Un ami disait que l'on parle des conflits à la partie orientale du Congo comme si on parlait de conflits à Kaboul, ce qui n'est pas acceptable pour un pays. Pour revenir sur la question du M23, je pense que la résistance du M23 aujourd'hui, il est la conséquence d'un certain nombre d'approches de paix inachevées dans le pays et qu'il est bon de reprendre de façon sérieuse. Quand je parle de processus inachevé, c'est de dire qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont impliqués dans les conflits et pour lesquels finalement il n'y a jamais eu, on ne trouve toujours pas de solution définitive, on aborde des questions de façon à la moitié. Alors, les premiers acteurs dans ces conflits, ce sont les officiers du M23, dont beaucoup étaient des officiers du CNDP, mais avant cela, ils étaient des officiers du RCD, et avant cela, ils étaient des officiers de l'AFDEL, et qui, pour de mauvais calculs, mais ou bien peut-être pas pour avoir été mal conseillés par leurs mentors, n'ont jamais rejoint l'armée congolaise, et qui se retrouvent aujourd'hui sans aucune piste de sortie. Ils ont fait toute leur carrière dans l'armée ils savent pas ce qu'ils vont, ils vont devenir. Beaucoup d'entre eux, ils étaient pris en charge par l'Ouganda et le Rwanda, et manifestement, ces pays-là se fatiguent d'eux. Et puis, vous avez une deuxième catégorie des jeunes qu'on recrute, à qui on promet moins merveille, en promettant du travail, en promettant qu'ils vont être de grands officiers aussi, qu'ils vont occuper des postes en RDC. Et on a effectivement observé le recrutement qui s'est fait pendant des mois. J'étais étonné de voir qu'au niveau de l'armée congolaise, de la sécurité congolaise, on ne s'est pas saisi de cela, alors que ça se faisait plus ou moins au grand jour dans le territoire de Djomba et dans toute la partie de Rutshuru. Ensuite, vous avez en troisième position le Rwanda, qui est celui qui est à la manœuvre depuis très longtemps. C'est début 96 que le Rwanda est à la manœuvre, et qui a une politique extrêmement élaborée de contrôle de l'Est, et même de contrôle et de l'occupation du pouvoir à Kinshasa. Il ne faut pas que les gens oublient qu'en 98, le Rwanda a tenté même une aventure en faisant un lancement des troupes aéroportées vers Kitona avec la volonté d'avoir le contrôle du pouvoir à Kinshasa. Alors, il s'est fait que ce qui est nouveau dans ce tableau-là, c'est le fait que l'Ouganda s'est invité dans le jeu. Et donc, l'entrée de l'Ouganda dans le jeu, en considérant qu'il y a une compétition depuis un certain moment entre le Rwanda et l'Ouganda, a fait que il fallait que un de faiseurs de guerre dans du coin est puisse montrer des muscles, et donc il a renvoyé ses hommes sur terrain pour pouvoir faire basculer les choses. Donc on est dans une situation complexe, on est dans une situation qui a trop duré et qui a fait pourrir pratiquement toute la partie est du Congo, et l'approche devrait être beaucoup plus élaborée. Et donc, j'ai entendu le gouverneur Paluku parler de cette question-là. Il est maintenant dans le gouvernement ici. Je l'ai connu comme gouverneur au Nord Kivu. Il est important de demander au gouvernement d'être plus élaboré dans la manière de régler les questions des conflits. On doit pouvoir être en mesure de mettre les cartes sur la table pour qu'on discute sérieusement, pour que les uns et les autres sortent de leur stratégie de pourrissement de la situation.
Merci, Père Rigobert Minani. On va ouvrir notre standard pour prendre les appels de ces auditeurs qui sont très, très nombreux à vouloir donner aussi leur point de vue sur le sujet de ce soir. On va se rendre à Rutshuru dans le Nord Kivu pour écouter cet auditeur.
Je suis Kambale Kalesere. Je vis actuellement à Kiwanja, précisément dans le territoire de Rutshuru. Et je suis le vice-président du conseil territorial de la jeunesse de Rutshuru. Nous qui vivons les affres de ces malfrats, nous disons que, en tout cas, ça ne vaut pas la peine que le gouvernement dialogue avec eux. Imaginez un groupe armé qui pille, qui viole, qui tue tous ceux qui racontent sur son passage et commencer peut-être à l'intégrer dans l'armée loyaliste. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'armée loyaliste? Nous disons que non, ce sont ces gens-là qui font des gaffes dans l'armée, qui ternissent l'image de l'armée, de la RDC. Et donc nous disons non, nous qui sommes la jeunesse de Rutshuru, nous disons vraiment non, et non au dialogue avec ces malfrats. Et donc, à cette occasion, je suis en train de saisir toute la jeunesse de Rutshuru de collaborer avec l'armée de la RDC pour dénoncer tout mouvement de ce genre, pour que l'armée, la seule armée que nous avons, puisse mettre à déroute tous ces malfrats qui endeuillent la population du territoire de Rutshuru. Nous avons appris qu'ils sont en train de vouloir aller vers Masisi.
Père Rigobert Minani, que pensez-vous du point de vue de cet auditeur Justin qui a appelé depuis Rutshuru, qui estime que le gouvernement ne doit pas négocier avec ce mouvement rebelle?
Oui, je comprends très bien le point de vue du jeune qui est à Kiwanja, mais il doit. Je ne parle pas de négociation. Je ne parle même pas de dialogue. Ce dont je parle moi, c'est de dire qu'on doit être en mesure de régler ce genre de questions autrement que par la guerre.
C'est-à-dire
et,
quoi
et
autrement
dis, il y a de moyens de pouvoir le faire. Et donc, s'enfermer dans une logique militariste seulement, en sachant qu'il y a plusieurs éléments qui sont là-dessus, ça fait plus de 10 ans qu'on fait cela, et il faut sortir de cette logique-là. C'est ça ce que moi je veux dire.
Maintenant
que,
oui, de manière concrète, qu'est-ce que vous proposez, Père Rigobert Minani?
Je dois pouvoir signaler que le ZAD M23 était à Kinshasa il y a quelques mois, hein. Donc, ils étaient à Kinshasa, ils étaient déjà en train de parler avec le pouvoir de Kinshasa, et c'est en rentrant, parce qu'ils n'avaient pas eu gain de cause, ce qu'ils ont eu, et malheureusement, chaque fois qu'ils reçoivent quelque chose, ils sont pas contents. Donc, faut signaler quand même que nous avons aujourd'hui, parmi les personnes qui gèrent la question de la démobilisation, le DDRC, un ancien membre du M23, Monsieur Tommy Tambwe. Et donc, c'est plus complexe que cela. Dire qu'on ne parle pas, bon, on doit pouvoir dire qu'est-ce qu'on fait. Il faut faire la guerre, mais ça fait 10 ans qu'on fait la guerre, et chaque fois qu'on fait la guerre, il y a des victimes inutiles, et puis il y a tous ces réfugiés qui sont là-bas sur place. Donc, on doit aborder la question dans sa globalité. Et je pense que le jeune qui vient de parler de Kiwanja, il a raison quand il pense qu'il faut se mettre à faire des concessions outre mesure pour permettre à ce que les gens qui tuent occupent des positions. Mais il faut savoir que la gestion d'un pays, c'est le dialogue permanent entre le pouvoir central avec les différentes composantes de la population, les différentes composantes de la nation. Et il est bon donc de pouvoir trouver des voies de sortie par rapport à cette situation-là.
Julien Paloukou, on va prendre aussi pour vous cet auditeur qui nous appelle depuis Beni, toujours au Nord Kivu.
Moi, c'est Fabrice Nguima. Je vous appelle depuis la ville de Beni, dans la province du Nord Kivu. Alors, l'insécurité qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo doit interpeller la conscience des autorités du pays. La résurgence des combattants du M23 dans la province du Nord Kivu, précisément dans le territoire de Rutshuru, prouve à suffisance la banalisation de la situation sécuritaire qui est caractérisée notamment par des tueries répétitives des civils dans la partie orientale de la RDC. Comment comprendre qu'un groupe armé puisse mettre à mal toute une armée? Les forces armées de la RDC et leurs partenaires doivent vite agir pour neutraliser complètement ces assaillants qui troublent la quiétude de la population.
Julien Paloukou, banalisation de la situation sécuritaire, une question qui n'est pas prise très au sérieux par le gouvernement de Kinshasa.
Je crois que banalisation, c'est quand même trop fort. Je suis dans le gouvernement, je pense que je suis en train de noter beaucoup d'efforts qui sont entrepris dans le sens de contribuer à la consolidation de la paix. Et là, je vais dans les solutions. Je l'ai dit depuis que j'étais gouverneur de cette province qu'effectivement, la solution pour ce pays, c'est de construire une armée. Il y a 3 instruments importants pour une république. Son armée, c'est sa police, c'est sa justice. Tant que nous n'aurons pas une armée bien construite, modernisée, équipée, eh bien, nous aurons toujours ce genre de situations qui arriveront. Je l'ai évoqué lorsque je parlais des États voisins, qu'il n'y a pas ce genre d'aventures qui peuvent se faire dans les États voisins. Pourquoi? Parce que eux ont mis au centre de la politique nationale d'abord la question de la sécurité et de la paix. Et le président de la République, son excellence, Félix Antoine Tshisekedi, il a dit dans un des conseils des ministres, actuellement, la grande préoccupation du gouvernement, c'est de construire une armée, c'est de l'équiper, de faire en sorte que nous devenions la puissance militaire en Afrique centrale. Et de ce point de vue, on ne pourra plus revivre ce genre de situation. Mais cela n'empêche, comme a dit le père Milani, que s'il y a des gens qui ont des revendications, ils les versent. Et comme il y a déjà un programme de démobilisation, de désarmement, de réinsertion communautaire, eh bien, des gens qui sont issus de ce genre de mouvement, ce programme-là est prêt à les accueillir et de les réinsérer dans la vie communautaire. Donc voilà, plus ou moins, ce qui constitue pour moi une solution qui commencerait par la formation de l'armée, les recrutements, les rajeunissements de nos éléments de forces armées pour que nous ayons au moins près de 50 à 100 000 hommes dont l'âge est situé entre 18 et 25 ans. Et de ce point de vue, on peut se permettre de dire que la République du Congo est dotée d'un instrument de puissance qui lui permettra de faire face à toutes les menaces.
Si on vous comprend, Monsieur Paloukou, aujourd'hui, les ADC ne disposent pas d'une armée forte, modernisée.
C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, avec l'armée que nous avons déployé des efforts de son rajeunissement, tout le monde le sait. La moyenne d'âge au sein de l'armée est située autour de 40, 45, 50 ans. Et donc, il suffit de voir un bataillon constitué, tout le monde se rendra compte qu'il faut un rajeunissement. Donc, ce n'est pas que ceux qui sont là...
Est-ce que l'armée a des moyens aujourd'hui? Est-ce que l'armée a des moyens?
À le rajeunissant, c'est une manière de lui doter de nouveaux souffles qui permettrait dans la durée de faire face à n'importe quel type de menace.
Mais est-ce que l'armée congolaise a des moyens?
Mais oui, si l'armée n'avait pas les moyens, bien toute la République serait déjà envahie. Ce n'est pas parce qu'il y a une question du M23 qui vient d'avoir lieu dans les territoires de Rutshuru que nous n'allons pas reconnaître que l'ensemble de la République est émise de main de maître par nos éléments de forces armées, qu'il faut encourager, qu'il faut soutenir dans la reprise qui sont en train de monter pour devoir bouter dehors. Donc, ce qui s'est fait sur les collines de Tchanzu, en territoire de Rutshuru, ne doit pas nous faire oublier les inlassables efforts qui sont menés par nos éléments des forces armées qui, par ailleurs, méritent tous mes encouragements, comme ceux de l'ensemble de la population congolaise.
Emmanuel Garouillet, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani.
Jean-Baptiste Léninyamouad, à province de l'Ituri. La possibilité d'un dialogue dans cette situation avec les M23 n'est pas une solution. Pourquoi dialoguer? Pour quelles raisons dialoguer? Le gouvernement congolais doit s'imposer pour qu'il n'y ait pas un dialogue avec ces hors-la-loi. Prendre en compte les recommandations de ces rebelles, ce serait mettre en jeu la souveraineté de toute une république et exposer la faiblesse de notre gouvernement. Il ne faudra pas qu'on donne l'impression comme si ce sont les rebelles M23 qui commandent l'État congolais devant le monde. Comme solution à ces problèmes, que le gouvernement dépêche nos soldats pour faire face à ces rebelles. Au-delà de tout, la situation sécuritaire de l'Est est clairement politisée parce que le gouvernement lui-même ne parvient pas à se demander ce qui ne marche pas.
Emmanuel Garouillet, brève réaction.
Ah, merci beaucoup pour la réaction. Je suis à moitié d'accord avec notre intervenant de Kisangani. En fait, le grand problème réside dans la compréhension du gouvernement, des dirigeants, de cette question. Est-ce que, comme l'a dit notre conducteur, il se remarque que la question n'est pas prise au sérieux par les décideurs de Kinshasa. Et visiblement, les décideurs ne comprennent pas, c'est pour cette raison qu'il y a une cacophonie, une incompréhension entre ce que dit l'armée par rapport à l'identité des agresseurs et ce que dit le gouvernement. À ce sujet, donc, il sera difficile de savoir quelle décision prendre. Donc, la première difficulté, c'est de pointer réellement l'agresseur. Et lorsqu'on connaît l'agresseur, c'est à ce moment-là qu'on saura quels moyens déployer. Pour moi également, les dialogues avec l'M23, je ne sais pas ce qu'on pourra encore donner au M23, qui n'a pas été donné parce que les M23, ce sont des arrière-petits-fils de l'AFDEL, du RCD, du CNDP, et aujourd'hui c'est l'M23. Donc, ce sont les arrière-petits-fils. Et tout leur a été donné par l'impulsion de leurs parrains. Aujourd'hui, ils ont tout, et je ne sais pas ce qu'ils peuvent encore réclamer. Ils ont l'armée, ils ont des députés, ils ont ils ont toutes les catégories, ils ont su infiltrer tous les pays, et aujourd'hui, rien ne peut se décider sans que les voisins ne sachent et sans que les voisins ne puissent accepter. Je ne sais pas, donc je ne suis pas donc pour ce dialogue parce que je ne vois pas de quoi encore on va dialoguer.
Mais s'ils avaient tout, pourquoi ils demanderaient encore d'être intégrés dans l'armée congolaise, d'avoir certains postes au niveau du gouvernement congolais, s'ils avaient déjà tout reçu comme vous le dites?
Bon, c'est parce que l'homme est naturellement insatisfait. Et à force de faire la guerre, plusieurs guerres, on devient comme un maudit. Et sinon, il n'y a rien à ce que je sache, qui ne leur reste qui leur reste.
Alors vous êtes contre le dialogue que demande ce mouvement rebelle, les M23. Donc qu'est-ce que vous proposez pour mettre fin à ce ping-pong, je dirais, entre le M23 et le gouvernement congolais?
Ce que je recommande, c'est d'abord aux dirigeants de la République de prendre conscience que nous sommes agressés par un pays voisin qui n'est pas à son premier tour, et prendre en conséquence des stratégies nécessaires, militaires, politiques et diplomatiques adaptées à cet ennemi. Parce que ils ne sont pas à la première expérience, c'est déjà vu, c'est déjà entendu. Cette guerre a été précédée par des sorties médiatiques par un président d'un pays voisin qui a promis d'entrer au Congo sans demander la permission de qui que ce soit. Et donc aujourd'hui, parler d'M23, c'est vraiment continuer à se tromper et perpétuer ainsi la misère de notre population.
Merci Emmanuel Ngarouye, on va considérer cela comme votre conclusion. Père Rigobert Minani, est-ce que avec l'adhésion de la RDC à l'EAC, c'est-à-dire aux États de l'Afrique de l'Est, pourrait être une solution par rapport à cette situation d'insécurité dans la partie est du pays, comme on dit, plusieurs groupes armés qui sont dans cette partie du pays seraient appuyés par des États voisins? Est-ce que cette adhésion pourrait tirer les choses au clair et mettre fin à cette insécurité?
Oui, partiellement, parce que une des raisons de conflit à l'Est, ce sont des raisons économiques, et les pays voisins veulent avoir la RDC comme un marché, et donc en entrant dans l'Eastern African Community, on règle partiellement c'est cette question-là. Donc, les éléments de conflictualité en RDC, dans le cadre où on considère les causes régionales, ne sont pas seulement économiques. Les raisons sont aussi extrêmement politiques. Je disais que le Rwanda, depuis le début, a élaboré de façon très minutieuse une politique d'occupation et de pourrissement de l'Est du Congo, et le Rwanda rêve la possibilité d'avoir le contrôle pas seulement de l'Est, mais aussi de pouvoir s'entrer à la Kinshasa, et les groupes armés ont toujours été ces éléments de manœuvre. Et donc il est important, si l'on veut régler cette question-là, donc de considérer la question dans la globalité, de ne pas les saucissonner. Et à mon avis, ce que moi j'appelle des approches inachevées, c'est que on prend un bout, on avance avec ça, puis on s'arrête. Et donc l'entrée dans l'Eastern African Community pourrait être aussi une catastrophe si nous restons dans une position où nous ne savons pas ce que nous voulons. Nous n'avons pas de projet par rapport aux autres et nous offrons comme un marché, alors nous serons le supermarché où tout le monde viendrait prendre des choses et nous disparaîtrons. Donc il y a vraiment une question de cohérence politique et sécuritaire qui doit être faite à partir de la capitale.
Merci Père Rigobert Minani. Julien Paluku, ministre de l'Industrie, ancien gouverneur du Nord Kivu. Pourquoi? C'est une question d'un auditeur. Hein. Un auditeur qui écrit depuis Kinshasa, Franck, qui demande pourquoi le gouvernement a du mal à citer le Rwanda comme étant appui des M23, alors que tous les experts citent ce pays sans avoir peur. Allô? Allô? Je crois qu'on a perdu le ministre Julien Paluku. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Donna Madimba qui a réalisé ce magazine sous la supervision de Martin Sebujangwe. La mise en onde était assurée par Dieudonné Nyangasa. Présentation et coordination, Kelly Nkouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.